France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Entre la Seine et le Coteau, il y avait du bal et de la guinguette. Il y avait du coquin et de la fillette et de l'agrément au bord de l'eau. Ah, la banlieue. Ah, la poésie de la banlieue. La poésie des noms de villes. Suresnes et son vin blanc. Charenton et son pont. Nogent et ses guinguettes. Et Joinville. À Joinville-le-Pont, Pompon, bien sûr. Car la poésie, c'est aussi des chansons. Et chantées par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault ou par Damia, la grande Damia. Un présentateur célèbre pour l'émission qui vient, Jean Poiret, et son acolyte, Michel Serrault, alias Stéphane Brinville. Des noms de fleurs, d'oiseaux, quelques injures, la présence d'André Ardelais, un peu d'argot, la famille Dupanard de Vitry-sur-Seine. Prenez garde à la poésie de la banlieue. Première diffusion sur la chaîne nationale le 3 juillet 1955.
Mesdames, Messieurs, Jean Chouquet et Philippe Soupeau vous disent « Prenez garde à la poésie » en compagnie de Jean Poiret et Michel Serrault, avec aujourd'hui les garçons de la rue, Claire Leclerc, Jean Topard, Armand Lanoux, Jean-Michel Defaille, Émile Decoty, avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, et Damia. Prise de son Robert Gibert. Enregistrement réalisé au Théâtre Gramont. Prenez garde à la poésie est une émission de Philippe Soupeau et Jean Chouquet. Et voici Jean Poiret.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour ne rien vous cacher, nous méditons depuis longtemps, mon ami Stéphane Brinville et moi, de consacrer une des émissions de Prenez garde à la poésie de la banlieue.
Oui, la banlieue, c'est inconnu.
Je dirais plutôt, c'est méconnu.
Je dirais, moi, trop peu connu.
Vous pouvez en parler, Brinville, vous êtes un spécialiste. J'ai en effet demandé au charmant et délicat poète Stéphane Brinville de se métamorphoser. Non, oh, je vous en prie, non. Mais... de se métamorphoser pour quelques semaines en explorateur, et je l'ai chargé d'une mission délicate comme lui, délicate entre toutes, celle de partir à la découverte de la poésie de la banlieue.
Une tâche d'ailleurs très difficile, mais passionnante.
Mais passionnante, je ne vous le fais pas dire. Pouvez-vous nous faire le récit de vos exploits maintenant, Brinville?
Eh bien, tout d'abord, n'est-ce pas, j'ai consulté une carte.
Oui.
Alors, première découverte poétique. La poésie étrange des noms des localités.
Oui.
C'est surprenant, vous ne trouvez pas?
Oui.
Écoutez plutôt. D'abord, des noms d'oiseaux. Colombe.
Colombe.
Des noms de fleurs. Bécon les bruyères.
Oui.
C'est joli, hein?
Oui.
Fontenay aux roses.
Oui.
Les lilas.
Ah, c'est charmant.
Ensuite, vous avez des noms de héros.
Oui.
Robinson.
Oui.
Joli, n'est-ce pas? Des noms de fous. Viroflay.
Oui.
Charenton.
Oui, ah bah oui.
Des noms de métiers. Marne la Coquette. Asnières. Et alors, surtout, une chose qui m'a. Oui,
oui.
C'est une chose qui m'a terriblement impressionné, c'est les injures. On trouve des injures, mais alors...
Des injures dans les noms de banlieue?
Dans les noms des localités de banlieue, absolument. Vous avez par exemple Sceaux, n'est-ce pas?
Oui.
Mais Cachan.
Cachan, oui.
Cachan,
oui.
Pas? Pantin.
Oui.
Mais Puteaux.
Oui, ah bah, oui. Évidemment.
Et j'en passe, c'est des meilleurs.
Oui, bah passons, parce que tout passe de toute manière, alors passons. Hein?
Oui, d'ailleurs, moi, après avoir regardé plus attentivement la carte, j'ai cru que la banlieue était vraiment le paradis, vous savez.
Vous exagérez un petit peu, je vois.
Pourquoi?
Non?
Bah, enfin, pas du tout, car presque tous les saints, ils s'y sont donné rendez-vous. Vous n'avez pas remarqué? Vous avez Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Germain, Saint-Mandé, Saint-Maur, Saint-Maurice, Saint-Nom, Saint-Léger.
Oui, vous oubliez Saint-Leu, Saint-Cucufa aussi, il y a un tas de saints comme ça.
Bah, vous oubliez Saint-Ouen aussi.
Ah, Saint-Ouen, cher au poète Raymond Queneau qui a écrit Saint-Ouen Blues.
Mais Saint-Ouen Blues, c'est le marché aux puces.
Oui, exactement, oui. C'est le marché aux puces. Saint-Ouen Blues, mis en musique par Pierre Arimi et que vont interpréter les garçons de la rue. Les garçons de la rue.
Un arbre, sur une branche, un oiseau, criant dimanche, à Saint-Ouen, près de Paris, les godasses. Pas étranches, très peu d'atouts. Dans la Manche, une sauce à l'oignon frit. Un phonon sur une planche, un accordéon qui flanche, des cabines décidées, un vélo coupé en tranches, un coup dur qui se déclenche, des voyous, des malappris, des cheveux en avalanche, des yeux dont c'est les pervenches. Belle fille de Paris, la putain qui se déhanche, un passant séduit se penche, c'est son sou pour le chéri. Sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir. Le patron lui criait:
voulez-vous vous asseoir? Descendez, descendez, allons!
C'est assez pour ce soir.
Si vous restez debout, vous allez vous casser le cou.
Mais la demoiselle sur la balançoire riait, riait et montrait le plus belle. Elle était belle et l'on pouvait croire qu'elle s'envolait tout d'un coup dans le ciel.
Mais c'était défendu,
elle est redescendue.
Quand elle est redescendue,
moi j'étais tout ému. Je lui ai dit: mademoiselle, j'ai cru que vous aviez des ailes.
Ils sont allés au tir,
au chevaux de bois.
Aussi
mais ça l'amusait pas. Elle a dit: je vous remercie, je préfère retourner là-bas.
Et voilà qu'elle m'a laissé pour aller se balancer. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait voir ses jambes blanches sous son jupon noir.
Quand elle est redescendue,
moi je n'en pouvais plus. Je lui ai proposé: voulez-vous m'épouser?
À la mairie du 13e.
Je dis oui.
Elle de même.
Je l'ai pris par le nez, par le cou, par le bras. Je l'avais tout contre moi.
Vous permettez? Mais ça l'amusait pas.
Elle a dit, je vous remercie, je préfère retourner là-bas.
Et voilà qu'elle l'a laissé pour Lisbonne.
Elle était belle, elle a dit bonsoir en s'envolant pour toujours dans le ciel.
Mais Raymond Queneau n'est qu'un amateur de la banlieue, cette banlieue qu'il parcourait en chemin de fer quand il venait de son Havre natal à Paris. Ce n'est pas un banlieusard à proprement parler.
Pardon, il habite Neuilly, vous savez, il a écrit un roman sur Veil. Alors que voulez-vous de plus ?
Non, je voudrais des banlieusards type.
Bon, alors demandons alors à Armand Lanoux, banlieusard, habitant avec joie d'ailleurs et fierté Chelles, de nous présenter le jeune poète de la banlieue, Henri Ardelais.
Alors, Armand Lanoux et Henri Ardelais.
La banlieue constitue le décor d'un drame sournois dont il est assez malaisé de retrouver l'argument. La banlieue, je la vois sous la forme d'un ballet assez oblique de fleurs bleues, incarné par des demoiselles très sages et très délurées à la fois, et d'assassins danseurs, oui, quelque chose qui mijote entre talus et soleil, entre zone et morte fontaine, entre Sylvie et le gazomètre. Son langage est une sorte de français parlé, directement issu de l'argot des gardes françaises chères à l'illustre Vadet, ces gardes françaises qui cantonnaient dans le Valois ou à Boulogne, à Saint-Lys ou à Vincennes, et qui sifflaient allègrement les contredanses, les brunettes et les fillettes de vin blanc de Suresne. L'amour pour cet argot ancien s'appelait le petit dardan. Le terme est démodé, mais un cœur, c'était et c'est toujours un palpitant. Et une fille de banlieue, même si elle travaille à la vermicellerie, eh bien c'est une bergère. Eh bien, j'ai choisi aujourd'hui pour guide un des rares jeunes poètes dont Mac Orlan, un grand banlieusard, ait retenu le nom, c'est André Ardelais. Vous savez que nous essayons de jouer franchement le jeu et que s'il est bien de vous faire mieux connaître des poètes déjà connus, il est aussi de notre devoir d'attirer votre attention sur des poètes qui ne sont pas encore connus. Alors ici, je vous donne une chance vraiment rare, celle d'aimer un poète avant qu'on ait crié son nom sur les toits. Attention, ne lui en veuillez pas, il est timide. C'est la première fois qu'il apparaît et parle en public. André Ardelais, vous êtes né à Vincennes il y a environ 40 ans. Et beaucoup de vos poèmes ont pour cadre l'immédiate banlieue de Paris. Je voudrais que vous nous racontiez un peu votre banlieue sentimentale.
Bon, eh bien, ça s'est passé vers 18 ans. Je tenais à Vincennes, alors je connaissais un petit peu la banlieue, mais enfin, j'y avais pas pénétré encore. Puis alors, je crois que c'est la danse qui m'a introduit dans la
c'est
banlieue.
C'est le bal.
La gambille, oui.
voilà le terme exact.
La gambille, oui. Vous comprenez ? C'est facile, on se trouve dans une atmosphère qui est agréable. On voit des petites filles qui sont gentilles.
Et cela, peu à peu, à son insu, ça se transforme
en poésie.
Et puis alors,
ça se transforme en poésie, oui. C'est venu beaucoup plus tard, c'est venu après la guerre, je crois, quand je suis rentré de la guerre. Ça s'est revenu d'un seul coup, puis alors j'ai essayé d'écrire des poèmes que j'ai envoyés à Mac Orlan. Et alors, j'ai retrouvé certains décors, après ça, j'y suis retourné. Ça avait déjà changé, du reste. Nos gens, c'était plus du tout pareil. Puis, surtout Suresnes, de ce côté-là, les bords
oui,
de la Seine.
J'ai connu aussi ce désastre de Suresnes.
Il y a une autoroute maintenant. Alors oui. C'est une autoroute, ça n'a rien à voir avec la banlieue. C'est de la rigolade, ça, non ? Non, mais à ce moment-là, il y avait encore une espèce de gentillesse.
Oui, c'est le. Je vous demande de faire attention au vocabulaire précis qu'emploie Ardelais. Parce que quand il dit gentillesse, ce n'est pas le mot gentillesse que l'on emploie comme ça. Non, c'est le vieux mot gentil. qui est très important et qui plonge dans les racines
oui,
des Français.
Oui, il y avait une espèce d'élégance qui tenait, une élégance populaire si vous voulez, mais une élégance tout de
oui,
même.
Oui, et je dirais même, nous allons voir ça assez rapidement, une certaine préciosité populaire. Eh bien, ceci, vous l'avez exprimé dans un poème que vous avez intitulé « Black and White » et que va vous lire Jean Topard. Jean Topard.
Trompant les anges de service aux portes des bouges secrets, un pèlerin parfois se glisse pour voir flamber la nuit de près. Quand les soldats de plomb se couchent, si le parrain change d'aspect, c'est pour que la chambre débouche sur des tableaux plutôt suspects. Dans la cathédrale de verre, l'assassinat bleu de la fée se commet près de Nuremberg, au cri de la neige étouffée. Mais la Morgane ressuscite en un Bagdad particulier où la confusion se pratique pour le plaisir des initiés. Par une porte de sortie, l'égout mène chez le marquis. La fillette crie sous l'ortie. Un peu de sang tache le buis. Le pèlerin rentre bredouille après n'avoir vu que du feu. Mais pour d'autres, la rosée mouille les salades de la banlieue.
Vous voyez que nous prenons ici les mots en flagrant délit de double jeu. Il est évident que le sens du mot pèlerin est double et qu'il prend un intérêt assez particulier. Le caractère dangereux de cette poésie de l'aube blême ne vous a d'ailleurs pas échappé. Elle s'équilibre entre les fastes misérables du crime et l'espoir chiche des premières heures d'un jour où il ne s'est encore rien passé de définitif. C'est la banlieue située entre ses assassins et ses tendres victimes, entre Weidmann, le monstre de la Voulzie, ou l'illustre Bonneau, ou Landru, bien sûr, et la Sylvie de Gérard de Nerval. Ce poème est extrait de votre seconde plaquette qui a paru chez Segers et qui s'appelle « Le luisant et la sorgue ». C'est un très beau titre, mais il faut l'expliquer, Ardelais.
Mais voilà, j'ai choisi ce titre parce que le luisant signifie le jour et la sorgue signifie la nuit.
Eh bien, on est presque obligé de dire que le luisant et la sorgue, c'est plus beau que le jour et la nuit.
C'est pas, mon frère. La sorgue, c'est aussi le nom d'une rivière. Alors tout ça, ça se rejoint un petit peu dans le rêve, vous comprenez. C'est... Je me suis promené aussi pas mal de fois dans Paris et sur sa banlieue au petit matin, et puis dans la nuit, au beau milieu de la nuit. Et alors tout ça, ça a pris corps petit à petit. Puis...
Mais je voudrais vous demander justement, comme nous vous avons pris en flagrant délit d'emploi de l'argot, je voudrais vous demander quelle importance vous attachez à l'argot, sa valeur poétique pour vous.
Ah, moi, j'y attache une très grosse importance à l'argot. Je l'ai toujours aimé, puis je crois que je l'aimerai toujours. C'est le plaisir d'employer une expression qui fait mouche, oui. Qui met dans le mille.
Attention, quelques-uns d'entre vous se souviennent de nous avoir écoutés, René Lefebvre et moi, discuter de la même chose. Eh bien, René Lefebvre parlait d'un autre argot que le nôtre, au fond. C'est-à-dire, il parlait du même, mais il visait un autre argot. Il y a un argot qui est celui de l'actualité pure. Et qui se démonétise d'un jour à l'autre, presque. Oui, c'est pas celui-là qui nous intéresse.
Ça va très vite, oui.
C'est pas celui-là qui nous intéresse. Le fait que l'on appelle un billet de 10 000 francs un farouk, n'est-ce pas, c'est complètement démonétisé du jour où il n'y a plus de farouk. Oui. Ça n'a pas de sens. Tandis que quand on appelle pendant plusieurs siècles la tête la Sorbonne, n'est-ce pas, c'est encore valable 5 ou 6 siècles après. Voilà la différence. C'est cet argot-là que nous aimons. N'est-ce pas? C'est bien ça.
Ah oui, c'est exactement ça. Vous pouvez prendre les mots les plus simples, par exemple, une bergère pour une jeune fille. Oui. Ça évoque quelque chose de gracieux et de léger, pas une mère de famille qui serait titulaire du prix Cognac Jay, il n'y a aucun doute. pas ça. Il y a des réussites qui sont assez étonnantes, par exemple, flamber dans le sens de jouer.
Oui.
De jouer aux courses.
Ah, c'est très beau, le verbe fait
Il y a tout là-dedans. Il y a l'éclat, il y a l'illumination intérieure du flambeur, et puis il y a la rapidité avec laquelle le jeu brûle les billets. Tout ça, ça tient en un mot. Il y a un gars qui a rapproché le jeu de la flamme un jour, puis il a trouvé flambé, comme ça. Puis c'était bon, enfin, il faut croire que c'était bon, mais c'est resté.
Vous voyez, Ardelais est un poète parce qu'il aime les mots. Ne nous étonnons donc pas qu'Ardelais écrive aussi ses chansons en argot. Alors, comme vous l'avez entendu dans le poème de tout à l'heure, ici, un agent qui se promène, c'est un pèlerin. Car Ardelais écrit des chansons que Germaine Montero a créées et c'est Claire Leclerc qui va vous chanter le pont de Charenton, où l'on voit toujours sous l'œil froid des pèlerins comment la mignonne du Tour de Marne est prise en chasse par les bons enfants du voisinage.
Le diable au ment à 10 francs, pour pas un rond, l'odeur des blondes, Gisèle, Fernande ou Raymond, des petits Jules à la flan. Y avait de la promesse sous le corsage et du consentement dans le secteur. On ne payait pas cher son bonheur quand on entrait à l'ermitage. Sous les arbres de la terrasse, il faisait bon tout simplement regarder venir les événements où la mignonne à prendre en chasse. On avait le choix pour rouler chez les ingénus du dimanche. On jouait le Pérenneau en deux manches. Vas-y Dédé, à toi de rouler. Quand Mimi l'a l'accordéon, vous envoyez le dénicheur. Tout le monde avait du baume au cœur et les filles de Charenton se mettaient dans le ton du patronage. Que de beaux instants retenus dans le frais collier de bras nus que vous tendez ces enfants sages. La belle étoile des banlieues, la cantilène des serments, des noms qu'on écrit sur le sable et nos soucis à tous les vents, des noms qu'on écrit sur le sable et nos soucis à tous les vents.
Il est bien évident que cet argot du luisant et de la sorgue devient un langage poétique subtil qui suit tranquillement son chemin depuis le Jobelin de Villon jusqu'au poème récent de Macorlan en passant par Vadé et Ardelais. Privons maintenant le poème du secours de la musique et voyons comment il se tient. C'est Jean Topard qui va nous lire Lily of Laguna.
Vous qui l'avez si bien connu, ce temps perdu de nos dimanches, qui vous en êtes souvenu, chantez le refrain où s'épanche nos gens à la marne enlacée. Venez redire aux alentours ce que nous disaient les rameux s'embarquant vers l'île d'amour. Cherchez l'écho des voix heureuses. Une onde encore en est restée, avec un air d'accordéon, avec ton image un peu floue, ma belle Gise du Péreux, avec la rose des aveux cueillie en dansant sur ta joue. Oh, mes amours jamais comblés, rappelez-vous, chemin faisant, la nuit des vertus envolées, la nuit des neiges des senteurs et le sourire aux palpitants.
Si j'avais un Oscar à donner à la meilleure chanson de l'année, c'est à Suresnes que je le donnerais. Mais avant que vous ne l'écoutiez, j'aimerais qu'Ardelais nous dise, lui, comment il s'arrange entre poème et chanson.
Mais voilà, à vrai dire, je n'avais pas l'intention d'écrire des chansons. J'avais écrit des poèmes et c'est Macorlan qui un jour m'a dit, mais ça pourrait faire des chansons. Et puis Germaine Montero s'en est occupée et Christiane Vergier a fait de la musique. Et un jour, je me suis trouvé devant deux de mes poèmes qui étaient transformés en chansons.
C'est-à-dire Pont de Charenton et Assurène.
Et Assurène. Enfin, plus généralement, eh bien, je crois qu'il y a des chansons qui se défendent par leur texte. Ce sont de grandes chansons qui resteront toujours. Par exemple, les chansons de Bruant.
C'est exact.
Il y en a d'autres qui valent par la musique. Par exemple, il y a une chanson que j'aime beaucoup, une vieille chanson qui s'appelle « Les roses de Picardie ».
Oui, je sais, je l'aime aussi énormément.
Eh ben, je ne sais pas.
À notre mythologie.
Oui, c'est exact. Je ne sais pas quelles sont les paroles de « Roses de Picardie ». Elles sont peut-être excellentes, elles sont peut-être médiocres, j'en sais rien, mais il me suffit.
Elles sont faibles, disons.
Bon, elles sont faibles, peut-être, mais peu importe, il me suffit d'entendre ça tout d'un coup. Ça me rappelle un tas de choses. Ça y est, je suis en plein, ça a sauté d'un cran, la réalité est partie, et puis j'y suis.
Eh bien, maintenant, nous allons mieux comprendre ce mélange en écoutant « Suresnes » par Claire Leclerc.
Entre la Seine et les coteaux, il y avait du bal et de la guinguette, il y avait du coquin, de la fillette et de l'agrément au bord de l'eau. On s'épousait pour la semaine à la saison des roux couleurs, la jolie gerbe de faveur qu'on s'est envoyée à Suresnes. Petit jardin, berge, talus, sirène au loin et mur d'usine, un accordéon en sourdine, et ce jour qui déjà n'est plus. Depuis il est passé du monde, de Saint-Cloud jusqu'à Billancourt, les gars ont donné le bonjour de leurs 20 ans à brune ou blond. En cherchant ce que voulait dire un paysage et quelques noms réunis dans leur abandon par la lumière du sourire. Entre la Seine et les coteaux, il y avait du bal et de la guinguette, il y avait du coquin, de la fillette et de l'agrément au bord de l'eau. On s'épousait pour la semaine à la saison des roux couleurs, la jolie gerbe de faveur qu'on s'est envoyé à Suresnes, à Suresnes.
La jolie gerbe de faveur qu'on s'est envoyée à Suresnes. Voilà le ton de cet argot précieux que nous essayons de vanter. Je vous ai dit pour commencer que la banlieue constitue le décor parfait d'un drame sournois. C'est la banlieue qui fait d'André Ardelais cet homme d'une double vie qu'il connaît bien, ce docteur Jekyll employé de commerce et ce monsieur Hyde poète. Je crois que nous sommes un peu tous ainsi. Tout ce qui touche à la banlieue est ainsi à double face, à double vue et à double vie. Parce que la banlieue est elle-même Jekyll et Mr. Hyde. La banlieue continue en permanence la tragédie de Gérard de Nerval. Il n'y a plus à s'étonner maintenant qu'André Ardelais ait écrit un poème intitulé « La Brunie ». Et que va nous dire Topard ?
La torpeur a gagné les domaines du frais. Midi clôt la chanson des dernières laveuses. L'heure est tout souvenir. Et tu réapparais au miroir étoilé des images heureuses. Ton aspect peut changer, ou ton nom, ou ta voix, sans que rien soit perdu dans l'accord qui nous lie. Tu redeviens toujours la même qu'autrefois, et celle qui nouait la rose à l'encolie. Dans les bois de l'Oisy, la fougère est profonde, une sente y conduit au bord de l'autre temps. Sans un mot, Adrienne a délaissé la ronde, mais sa sœur la remplace et m'entraîne en chantant. Chimère, dont j'ai vu le multiple visage, combleras-tu jamais tous mes désirs trompés? Je ne sais, mais j'attends. Et se fane l'image des belles du Valois sur les lauriers coupés.
Eh bien, voilà ce que nous apportait ce grand garçon, à la fois taciturne et rieur, la tendresse et l'argot de la banlieue au double visage. Il est un de ceux qui ont le mieux compris cette tragédie du siècle. La poésie de la banlieue, pour lui et quelques autres, c'est l'Île-de-France de Sylvie et d'Adrienne saccagée, envahie par les tessons et les marchefer, l'Île-de-France violée, égorgée, éventrée, au bord des étangs de Mortefontaine ou sur le Tour de Marne, quelque part entre Corot et Cocteau, entre le petit vin blanc sous les tonnelles et la leçon de ténèbres de Couperin le Grand, entre le luisant et la sorgue, entre le clavecin de Vanda Landowska et l'accordéon de Macorlan.
Je dirais donc que la banlieue est poétiquement moderne.
La banlieue est donc, à votre avis, un phénomène poétique de notre époque, c'est ça, si je comprends bien.
Plus exactement, du XXe siècle, oui.
Oui.
En vérité, nous avons assisté depuis 25 ans à la naissance de la banlieue proprement dite, n'est-ce pas? Et surtout des banlieusards.
Vous voulez dire des fabricants d'asperges, des maraîchers, des marchands de fines herbes, quoi.
Banlieusards, des... oui. Bon. D'ailleurs, écoutez, puisque vous insistez, je vais vous donner un exemple.
Donnez-moi.
Un poète moderne, Jacques Prévert, a consacré une chanson aux banlieusards, qui n'ont d'ailleurs qu'une idée en tête, n'est-ce pas? C'est de venir à Paris le samedi et le dimanche, faut bien le dire.
C'est une remarque pertinente que vous venez de faire là. C'est très pertinent. Les Parisiens vont en banlieue, les banlieusards à Paris, c'est normal.
Oui, mais hein? Comme le dit également la chanson de Prévert, les enfants, eux, restent en banlieue.
Eh bien, écoutez, les enfants d'Aubervilliers, chantés par Claire Leclerc.
Gentils enfants d'Aubervilliers, vous plongez la tête la première dans les eaux grasses de la misère, où flottent les vieux morceaux de liège avec les pauvres vieux chats crevés. Mais votre jeunesse vous protège et vous êtes les privilégiés d'un monde hostile et sans pitié, le triste monde d'Aubervilliers, où sans cesse vos pères et mères ont toujours, toujours travaillé pour échapper à la misère d'Aubervilliers, à la misère du monde entier. Gentils enfants d'Aubervilliers, gentils enfants des prolétaires, gentils enfants de la misère, gentils enfants d'Aubervilliers. Gentils enfants d'Aubervilliers, c'est les vacances et c'est l'été, mais pour vous, le bord de la mer, la côte d'Azur et le grand air, c'est la poussière d'Aubervilliers. Et vous jetez sur le pavé les pauvres dés de la misère et de l'enfance désœuvrée. Mais qui pourrait vous en blâmer? Gentils enfants d'Aubervilliers, gentils enfants des prolétaires, gentils enfants de la misère, gentils enfants d'Aubervilliers.
Mais dites-moi, Monsieur Poiret, vous qui faites le critique averti, là, pouvez-vous me donner un exemple de la poésie de la banlieue? Enfin, je veux dire, un exemple valable.
Rien n'est plus facile. Vous savez, entre Hugo et Prévert, il y a un siècle. Hein.
À qui le dites-vous?
Pour reprendre une de vos expressions favorites, je dirais que ce n'est pas tout à fait exact. Les poètes du temps passé ont aussi aimé la banlieue, mais ils l'ont aimé comme le cadre de leur vie. Je m'explique.
Oui, ben c'est pas malheureux parce que
je m'explique. Je vous dis, je m'explique. Connaissez-vous le poème qui fut inspiré à Victor Hugo par le souvenir de ces deux petites filles jouant dans un jardin de banlieue à Montlignon, que je vais demander à Jean Topard de nous réciter comme exemple justement de la banlieue romantique. Jean Topard.
Ô souvenir, printemps, aurore, doux rayon triste et réchauffant. Lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant. Connaissez-vous sur la colline qui joint Montlignon à Saint-Leu cette terrasse qui s'incline entre un bois sombre et le ciel bleu? C'est là que nous vivions. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. Elle courait dans la rosée sans bruit de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas la croisée de peur de la faire envoler. Ses frères riaient. Aube pure. Tous chantaient sous ses frais berceaux. Ma famille avec la nature, mes enfants avec les oiseaux. Je toussais. On devenait brave. Elle montait à petits pas et me disait d'un air très grave, « J'ai laissé les enfants en bas. » Qu'elle fût bien ou mal coiffée, que mon cœur fût triste ou joyeux, je l'admirais, c'était ma fée et le doux astre de mes yeux. Nous jouions toute la journée. Ô jeu charmant, chers entretiens. Le soir, comme elle était l'aînée, elle me disait, « Père, viens, nous allons t'apporter ta chaise. Conte-nous une histoire, dis. » Et je voyais rayonner d'aise tous ces regards du paradis. Alors, prodiguant les carnages, j'inventais un conte profond dont je trouvais les personnages parmi les ombres du plafond. Toujours, ces quatre douces têtes riaient comme à cet âge on rit de voir d'affreux géants très bêtes vaincus par des nains pleins d'esprit. J'étais l'Arioste et l'Homère d'un poème éclos d'un seul jet. Pendant que je parlais, leur mère les regardait rire et songeait. Leur aïeul, qui lisait dans l'ombre sur eux parfois, levait les yeux. Et moi, par la fenêtre sombre, j'entrevoyais un coin des cieux. Je n'ai jamais compris l'ambition. Je pense que l'homme simple trouve en lui sa récompense. Et le modeste sort dont je suis envieux, si je travaille bien et si je deviens vieux, sans que mon cœur de luxe ou de gloire s'affame, c'est celui d'un vieil homme avec sa vieille femme, aujourd'hui bon rentier, hier petit marchand, retiré tout au bout du faubourg, près des champs. Oui, cette vie intime est digne du poète. Voyez, le toit pointu porte une girouette. Les roses sentent bon dans leur carré de buis et l'ornement de fer fait bien sur le vieux puits. Près du seuil dont les 3 degrés forment terrasse, un paisible chien noir qui n'est guère de race, au soleil de midi dort couché sur le flanc. Le maître en vieux chapeau de paille, en habit blanc, avec un sécateur qui lui sort de la poche, marche dans le sentier principal et s'approche quelquefois d'un certain rosier de sa façon pour le débarrasser d'un gros colimaçon. Sous le bosquet, sa femme est à l'ombre et tricote. Auprès d'elle, le chat joue avec la pelote. La treille est faite avec des cercles de tonneaux et sur le sable fin sautillent les moineaux. Par la porte, on peut voir, dans la maison commode, un vieux salon meublé selon l'ancienne mode. Ceux-là seuls ont raison, qui dans ce monde si calmes et dédaigneux du hasard, ont choisi les douces voluptés que l'habitude engendre. Chaque dimanche, ils ont leur fille avec leur gendre, le jardinet s'emplit du rire des enfants, et bien que les après-midi soient étouffants, l'on puise et l'on arrose, et la journée est courte. Puis, quand le pâtissier survient avec la tourte, on s'attable au jardin déjà moins échauffé et la lune se lève au moment du café. Quand le petit garçon s'endort, on le secoue Et tous s'en vont alors, baisés sur chaque joue, montés dans l'omnibus voisin, contents et là, et chargés de bouquets énormes de lilas. Croquis de banlieue. L'homme en manche de veste et sous son chapeau noir à cause du soleil, ayant mis son mouchoir, tire gaillardement la petite voiture pour faire prendre l'air à sa progéniture. Deux bébés, l'un qui dort, l'autre suçant son doigt. La femme suit et pousse ainsi qu'elle le doit, très lasse, et sous son bras portant la redingote. Et l'on s'en va dîner dans une humble gargote où, sous le mur, est peint, vous savez, à Clamart, un lapin mort avec trois billes de billard.
Eh bien, Monsieur Poiret, en effet, c'est bien comme vous le désirez, la banlieue romantique et réaliste.
Mais il me semble
que ni Victor Hugo, ni François Coppée, ni Jacques Prévert n'ont décrit la banlieue sentimentale du début du siècle. Ce qu'on pourrait appeler la poésie des guinguettes, si vous voulez.
Alors là, pour vous la faire sentir, il faut que nous fassions appel à une grande dame de la chanson, à celle qu'on a appelée la tragédienne de la chanson, à Damia, qui va nous proposer sa poésie de la banlieue. Voici Damia.
Je vais d'abord vous chanter une chanson que j'ai créée ici, dans un sketch avec mon ami Dréan, qui se passait sur la zone, donc tout à fait le début de la banlieue. Ça s'appelle « La rue de notre amour ». Elle est pleine, pleine du cafard de rengaine que chante un clochard sur le toit d'une vieille maison. Un oiseau chante aussi sa chanson. Le ciel porte ses rêves d'azur sur les portes et sur les vieux murs. C'est un coin misérable et fané, mais c'est là que notre amour est né. C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieux faubourg. On y voit rôder les amoureux dans les coins noirs. C'est la rue de nos désirs où l'amour a su fleurir. Tout au fond d'un vieux faubourg, c'est la ruelle des cœurs fidèles. Nous aimons toujours, toujours la rue de notre amour. Elle est belle quand le ciel est bleu, elle est belle même quand il pleut. Mais le jour où l'on s'est rencontré, le soleil avait tout éclairé. Ce jour même, c'est toi qui m'as dit « Je vous aime ». C'est pour ça que depuis, nous n'avons qu'un logis pour nous deux dans la rue de nos premiers aveux. C'est la rue de notre amour, tout au fond d'un vieux faubourg. On y voit rôder le soir les amoureux dans les coins noirs. C'est la rue de nos désirs où l'amour a su fleurir, tout au fond d'un vieux faubourg. C'est la ruelle des cœurs fidèles. Nous aimons toujours, toujours la rue de notre amour. La guinguette porte fermée, ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran des profils inquiétants où les ombres s'amusent. On dit que pourtant un costaud qui frise à l'échafaud pour des vendus qui rusent vient d'entrer rageur en vengeur, oui mais la guinguette a fermé ses volets. Le rythme n'est pas incertain, soudain serait-ce l'heure, et dans l'accordéon craintif, plaintif, un son demeure, des jurons de voix mal et des râles, la chute de corps lourd, hargneux des coups sourds. La guinguette a fermé ses volets, le même son inquiet de l'accordéon glace. On voit comme sur un écran des couples haletants dont les ombres grimacent. On devine au choc la fureur des costauds en sueur qui roulent et qui s'enlacent. On voudrait bien voir et savoir, oui, mais la guinguette a fermé ses volets. Calme revient brusquement, vraiment, était-ce un leurre? Pourquoi ces sanglots convulsifs, furetifs, des femmes pleurent? Là-bas, un groupe traîne vers la Seine, quelques paquets maudits qui sombrent la nuit. La guinguette a rouvert ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. Les lampions éclairent discrets, les couples guilleraient en leurs ombres confuses. On dit que pourtant un costaud qui frisa l'échafaud pour des vendus qui rusent. Ils sortent très gais, est-ce vrai? Oui, mais la guinguette avait mis ses volets.
Cher Brinville, j'aime autant vous prévenir. Oui. Il y a dans la coulisse des types plutôt bizarres.
Quoi?
Oui, des types qui protestent au nom de la banlieue et des banlieusards.
Alors là, vous m'inquiétez. Qu'est-ce que c'est que ces types que vous qualifiez de plutôt bizarres?
Des mecs à traction avant.
Ah oui, c'est ça. Je vois, vous voulez dire des banlieusards à la redresse.
Voilà,
alors,
des, hein? Oui, des banlieusards duettistes. Vous, voyez, vous aimez les duettistes?
Oui, vous savez.
Enfin, je veux parler de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, vous savez.
Ah,
oui, oh oui. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault qui prétendent, non sans violence et forfanterie, oui, avoir leur mot à dire dans cette émission sur la poésie de la banlieue.
Vous savez, alors moi je les connais, vous savez, avec des zèbres hein, de ce calibre-là, il faut mieux leur laisser le micro parce qu'ils vont tout casser.
Alors faisons contre mauvaise fortune bon cœur, voici les affreuses petites guapes Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, accompagnés par les voyous Del Becco et Nono Zamit. Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
Depuis l'école d'apprentissage.
Qu'est-ce que tu fais maintenant?
Hein? Je travaille en usine.
Ah bon?
Je suis tourneur.
Où ça?
Hein? À Boulogne-Billancourt.
Oh, c'est un peu beau ça!
Et toi?
Et moi, je suis zingueur, moi.
Chez qui?
Chez Smusne.
Ah, la maison française?
Ouais! Alors où c'est que tu travailles, toi?
Chez Boulogne-Billancourt.
Ah bon, c'est qui?
Je suis chez Renault. Si, je suis chez Renault. Parce que si vous me causez voiture, moi j'embraye tout de suite. Faut pas me forcer, vous savez. Avant, j'étais chez Citroën. J'étais à Javel. Mais alors, rendez-vous, Javel, c'est Paris, quoi. Tandis que Boulogne-Billancourt, c'est la campagne, quoi. Fait alors, comme je suis à l'île Séguin, je crois que je suis à Noirmoutier. C'est vrai, ça fait plus vacances. Ah, ils ont essayé de me retenir chez Citroën. Ils me disent, non, non, j'ai dit non, je veux pas revenir. Alors là-bas, ils me disaient, allez, Polo, un coup de balai par ici. Hop, je le faisais. Allez, Polo, porte la caisse. Hop, je portais. Polo, vous êtes le roi des... Je les ai quittés. J'en avais assez des responsabilités. Là, vous comprenez, Citroën, c'est l'usine, quoi. Tandis que Boulogne-Billancourt, c'est la régie autonome. Alors, on est autonome, quoi. J'en ai chiché, quoi. Ouais. Je suis chez moi, quoi, là-dedans. Je fais ce que je veux. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai inventé la 4 chevaux. C'est bête, hein. Si Citroën, on faisait des 2 chevaux. Allez, moi, j'ai dit, allez, multiplie ton effort par 2. 4 chevaux. J'ai pas inventé tout seul, hein, parce qu'on est autonome, là. Voilà. Chacun dans son coin, quoi. C'est bête, c'est une bête petite voiture, hein. 4 places, 4 vitesses, 4 roues. Et 4 vitesses dans une arrière. Ça rend des services. Oh, c'est terrible, moi, je suis là, je suis chez moi, quoi. Quand je suis rentré là-dedans, ils m'ont mis au... Ils m'ont dit, on va te dégrossir. Ils m'ont mis à l'emboutissage. Et maintenant, alors, je suis au roulement à billes. Je vous explique pas ce que c'est trop technique, ça. Roule ma vie, c'est trop technique, ça. Alors, des fois, le contremaître, il vient, comme ça. Alors, il me dit, alors, Polo, ça marche? C'est ce que je réponds, moi. Ça roule.
Oh, c'est un monde.
Et je sais que c'est répété la direction. Hein. Oh, moi, je suis chez moi, quoi, là. Oh, c'est fou. C'est ce que je fais, le dimanche? Moi, je vais pas au football, moi. Moi, je vais pas dans les bistrots, moi. C'est plus fort que moi. Je vais quai du point du jour à Boulogne-Billancourt. Faut que j'aille voir mon usine. Je la regarde de loin, comme ça. C'est ma couveuse à 4 chevaux, hein. Je la quitte pas des yeux. Faut être bête, quand même. Et le soir, vers 6 heures, je vais jusqu'à la porte Saint-Cloud. Et là, je me mets sur les gazons, à l'autostrade. D'ailleurs, je regarde passer les voitures. Et puis, des fois, oh, pas souvent, hein. Tiens, je vois une 4 chevaux. Qui tient une bagnole à moi. Ah, c'est ce que je fais? Je prends la casquette et je fais des signes comme ça. Et ben les gars dedans, ils disent, tiens, ça c'est sûrement un gars de chez Renault.
Oh, mais non. Ben moi, je suis zingueur, moi.
T'es zingueur chez qui?
Eh ben chez Schmunchner, je t'ai dit.
Ah, une maison française.
Ouais, c'est à Vitry. C'est juste en face de chez les Dupanard.
Qui c'est cela?
Tu connais pas les Dupanard?
Les Dupanard?
Je vais te raconter leur histoire, c'est Robert Desnos qui l'a écrite. La famille Dupanard de Vitry-sur-Seine.
Oh, c'est bête, ça.
La tribu Dupanard, les parents, les moutards, habitent dans un gourbi, à Vitry. À Vitry-sur-Seine. Oh, quelle veine! Le papa Dupanard a jadis fait son lard au retour de Biribi. À Vitry-sur-Seine. Oh, quelle aubaine! La maman Dupanard s'est rangée sur le terre. Elle buvait des anis à Vitry-sur-Seine. Oh, quelle haleine. Le petit Louis Dupanard, d'habitude, couche au cœur. Puis il fait son fourbi à Vitry-sur-Seine. Oh, quelle vilaine. La Louison Dupanard a des pattes de canard et des poils de ouistiti à Vitry-sur-Seine. Oh, quelle sirène. Au musée du Puitrin, il y en a encore un. Il n'a pas fait son lit à Vitry-sur-Seine. Oh, quelle peine.
C'est bon, hein.
Dans le caveau familial, ils iront, c'est fatal. C'est la mort, c'est la vie, à Vitry-sur-Seine. Oh, quel domaine. Puis on les oubliera tôt ou tard, c'est comme ça. À Pékin, à Paris, à Vitry-sur-Seine. Et faridondaine. Alors, dis donc.
Faudrait qu'on se voie, Yann Seeker.
Ah oui, que je te cause, là. Tu vas toujours bouffer au moche bar à Saint-Ouen?
Non, je vais en fesse. Je vais chez Tony.
C'est bête, hein.
Il y a des rideaux.
Ouais. Puis c'est luxe.
Tu verrais les desserts, tiens, c'est drôlement royal, mon vieux.
Ah bon?
On mange des mendiants.
Eh ben moi, j'ai un copain qui est anticlérical, il bouffe des religions.
Ah, il est rigolo, lui.
Sans blague.
Oh, tiens, non, il en loupe pas une, lui.
Dis donc, faudrait qu'on se voie, y'a de ces quatre.
Viens quand c'est une petite graine.
Eh ben, c'est ça, quand tu veux.
Oui, mais alors te balance pas. Viens samedi.
Oh non, pas samedi. Un petit gars, plombier 5 heures, je fais des semaines de 48 heures.
Il attend que les dimanches s'amènent pour sortir sa grande germaine.
Ou bien une autre, ça revient au même. Mais moi je préfère quand même Germaine, à qui qu'un jour fougueux j'ai dit, si qu'on allait se balader, dit à Joinville le pont. Pom pom, tous deux nous irons. Ron ron, regardez qu'un chez jeune. Si le cœur nous en dit, di, on pourra aussi, si, nous mettra qu'un chez jeune. Au bord de l'eau, il y a des pêcheurs, et dans la Marne, il y a des baigneurs. On voit des gars qui jouent aux boules, on en voit d'autres qui mangent des moules. On mange avec les doigts, c'est mieux, il y a que les belles filles qu'on mange des yeux. Car quand le soleil resplendit, chaque couple le samedi dit, allez les cœurs, à Joinville le pont, pom pom. Nous irons, oh, oh, regardez qu'un chez si le cœur nous en dit, Didi, on pourra aussi, si, nous mettra qu'un chez. Mais quand la nuit tombe à 9h, y'a plus de pêcheurs, y'a plus de baigneurs,
y'a plus de belles sous la ramure, il reste plus que des épluchures.
Germaine me dit, j'ai mal aux pieds, sur mon vélo je dois la ramener. Mais dès lundi je pense au samedi, le samedi, moi samedi,
oh, oh, il est fou.
À Joinville le pont, si, là, c'est pas ça. Nous irons, j'ai dû me courir.
J'ai il était temps.
Si le cœur nous en dit, pompon, pas qu'il y a du pompon, il y a du pompon. Pompon, nous mettra qu'un allez maintenant tous en cœur! À Joinville le pont, pom pom! Tous deux nous irons, ron ron! Regardez qu'un je si le cœur nous en dit, Didi! On pourra aussi, si! Nous mettra qu'un oh, je me suis couré!
Brainville. Ah, il est dégoûté, ça y est, il est parti. Il est parti parce qu'il avait peur de manquer son train. Souci majeur des banlieusards, il habite la banlieue. Je voulais simplement lui donner un conseil, lui dire avant de partir,
alors prenez garde à la poésie.
Mesdames, Messieurs, Jean Chouquet et Philippe Soupeau viennent de vous dire « Prenez garde à la poésie » en compagnie de Jean Poiret et Michel Serrault, avec aujourd'hui les garçons de la rue, Claire Leclerc, Jean Topard, Henri Ardelet, Armand Lanoux, Jean-Michel Defaille, Émile Decoty, avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, et Damia. Prise de son Robert Gibert, enregistrement réalisé au Théâtre Grammont. Prenez garde à la poésie est une émission de Philippe Soupeau et Jean Chouquet.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 3 juillet 1955. Vous pourrez la télécharger durant un an ou l'écouter en ligne durant 1000 jours sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».